Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel avec vous cette semaine pour discuter du doute. Qui a jamais douté de rien dans la vie, hein? Ni de soi-même, ni de quelqu'un d'autre, ni d'une intention, ni d'une information qu'on reçoit, que ce soit à la télé, dans les journaux, disons, qu'on le lit ou qu'on la regarde, cette télé. Le doute croise nos vies de manière quasi inévitable un jour ou l'autre pour une raison ou une autre. Mais on n'a pas tous la même propension au doute. Et on ne l'utilise pas tous de la même façon non plus. Hein. Certaines personnes vont douter plus souvent et plus facilement que d'autres et on va les considérer comme des personnes sceptiques. Le scepticisme, c'est le doute incarné. Et on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui est sceptique de tout, tout le temps. Et on associe beaucoup le contraire du scepticisme à la naïveté. Donc, à l'autre bout du spectre du sceptique, on aurait le naïf, hein, celui qui remet en doute rien et qui, candidement, prend tout ce qui lui est présenté. Et on associe la naïveté à la notion d'être un peu poisson, tu sais. Celui qui se fait un peu avoir parce qu'il prend tout pour du cash, comme on dit. Et je dirais que dans ce continuum, ce spectre de comportement face au doute, pourtant, il y a un milieu. Et il s'appelle le discernement. Et encore mieux, il y a une chose qu'on appelle la clarté d'esprit. Voir clair, penser clair. Mais malgré tout, on associe davantage la clarté d'esprit à quelqu'un qui doute qu'à quelqu'un de naïf. C'est plus facile pour nous de penser que quelqu'un qui doute a du discernement comparativement à quelqu'un de naïf, qui est rarement qualifié de quelqu'un qui fait preuve du dit discernement. Et c'est là qu'il faut être prudent parce qu'à ce moment-là, on doit s'assurer que le doute est utilisé avec discernement et non à outrance. Mais on doute moins de l'utilisation et de la place du doute que celle de la naïveté et de la candeur. Oui, parce que le doute dans nos vies nous a souvent été présenté comme une attitude intelligente et qui fait foi d'un jugement, d'une capacité de recul, de discernement, je l'ai nommé. Et quand on apprend à remettre en doute les choses, on n'est pas un poisson. On a, au contraire, une grande capacité d'analyse puis on fait preuve de gros bon sens. Ça, c'est le doute tourné vers les choses extérieures. Mais quelqu'un qui est capable de se remettre en doute est également vu comme quelqu'un qui a une capacité d'introspection, de recul, une capacité de se remettre en question. C'est quasiment même relié à une forme de maturité, à de la sagesse. T'sais. Est-ce que c'est nécessaire de douter dans la vie pour avoir accès à la vérité, pour avoir accès au meilleur pour nous, que ce soit dans une idée, un choix à faire, un projet dans lequel investir ou pas? Est-ce que le doute, c'est vraiment notre allié, réellement là? Et si le doute était, au contraire, une attitude qui nous éloigne de la clarté d'esprit? Est-ce que douter de soi, des autres, serait la meilleure façon de nous protéger des gens de mauvaise foi, des faussetés? Puis pire encore, est-ce que douter de soi est réellement bénéfique et est aussi positif sur le plan de l'évolution que ce qui nous a été enseigné? On parle du doute cette semaine avec notre invité, Ima. Bienvenue à Emmanuel avec un M et deux L.
Very soon.
Ma relation avec le doute et la place que le doute prend dans ma vie est assez mitigée dans la mesure où je suis une grande émerveillée, et j'ai un niveau de naïveté relativement élevé, dans la mesure où je crois facilement à ce qu'on me dit parce que je crois en l'honnêteté des gens. J'ai souvent confiance sans trop me poser de questions, mais d'un autre côté, j'ai un niveau de doute également très élevé. Il y a une petite anecdote qui le démontre bien d'ailleurs. J'allais avoir 14 ans et nos parents, à moi et à ma sœur, nous ont appelés dans la cuisine, ma sœur et moi, et ils nous ont tendu des enveloppes pour qu'on les ouvre ensemble. Comme à l'habitude, on le faisait ensemble, on faisait tout en même temps ensemble. Et on y a découvert des billets d'avion pour la Floride. Et nos parents nous ont dit qu'on partait le lendemain. Et les photos de ce moment-là sont vraiment éloquentes. Ma sœur a les yeux écarquillés, la bouche ouverte de surprise et d'extase. Puis moi, j'ai une phase de « Hein? » Tu sais, la phase de « Ah ben franchement! » Et après, j'ai regardé ma sœur et j'ai dit « Ben voyons, Sarah, c'est leur vieux billet d'avion, c'est pas vrai, franchement. » Puis, faut dire que mes parents sont très farceurs et on est vraiment moqueurs dans la famille. Donc, ça aurait été leur genre de nous faire une blague, mais n'en demeure pas moins que c'était vrai. On partait pour la Floride le lendemain. C'était une surprise parce que mes parents sont aussi assez fans des surprises. Et ce que je me suis rendu compte en repensant à cet événement-là, c'est que j'avais douté parce que c'était trop beau pour être vrai. Et c'est là un exemple flagrant d'à quel point le doute peut nous nuire. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire que la croyance que quelque chose peut être trop beau pour être vrai jusqu'à ce qu'on en doute, tu sais? Est-ce que c'est vraiment une façon de vivre sa vie que de toujours douter des belles choses qui se présentent parce qu'elles sont trop belles pour être vraies, selon nous? Tu sais, ça en dit long sur ce qu'on pense valoir, puis ce qu'on pense avoir le droit ou le mérite de recevoir et de vivre dans la vie, tu sais. Et même si le doute avait une place intéressante et a encore une place dans ma vie pour certaines choses, il m'a fallu à un moment donné la questionner dans son utilisation. Parce qu'il faut nommer ce paradoxe qui entoure le doute, hein, et j'en ai parlé souvent, on est complètement intolérant à l'incertitude. On est en quête constante de certitude et pourtant, on a beaucoup de difficultés à l'atteindre, à l'accepter et à rester dedans. C'est comme si on était notre propre obstacle à notre quête personnelle de certitude quand on utilise le doute constamment. C'est contre-productif à un moment donné, là. On a même une expression qu'on dit très souvent, et je cite, je nous cite. Je m'en doute. Mais pourquoi qu'on dit ça? Qu'est-ce qu'on veut dire, dans le fond, quand on dit ça? Je m'en doute. Parce que quand on dit ça, ce qu'on veut dire, c'est « je le sais bien ». Tu sais, on est loin de douter, dans le fond. On dit aussi des affaires comme « je lui donne le bénéfice du doute ». Si après ça, on me dit qu'on ne voit pas le doute comme quelque chose de positif en considérant que le mot « bénéfice » se trouve dans l'expression pour justifier le doute ici, je me demande bien ce que c'est. Et encore ironiquement, quand on dit « je lui donne le bénéfice du doute », ce qu'on veut dire, c'est « je choisis de le croire et de lui faire confiance » et donc de ne pas douter. C'est vraiment ça, finalement, là. Quand on décide de donner le bénéfice du doute à quelqu'un, on décide de ne pas remettre en doute sa parole et de le croire. C'est comme... Pourquoi on dit ça? Et quand je regarde tout ça, j'ai pas le choix de me dire que notre utilisation du doute est clairement douteuse. Parce que douter peut avoir une zone grise. T'sais, j'avoue que prendre un temps d'arrêt puis de réfléchir à ce qui est présenté peut nécessairement être intéressant et bénéfique et absolument utile pour mieux juger de notre réalité, de notre environnement, de ce qui nous est proposé, mais prendre une pause pour réfléchir, ça implique en rien un doute. Prendre du recul et réfléchir, ce n'est pas synonyme de douter. Parce que le doute, au final, c'est quoi? Ben, le doute, c'est la peur, hein? La peur de se tromper, de manquer une information. Le doute, c'est la peur de se faire flouer parce qu'au final, quand on doute d'une information, qu'on doute de soi, qu'on doute de quelqu'un d'autre, d'une intention, d'une idée, d'un choix, c'est qu'on manque de confiance en nous, en l'autre, en notre capacité décisionnelle, au bénéfice que peut nous apporter une idée ou un projet, le manque de confiance en la véracité d'une information. Et le manque de confiance, est la méfiance. Et la méfiance, c'est une forme de peur. C'est une crainte, tu sais. Et là, j'ai même pas besoin de dire ce que douter des autres constamment nous mène à faire. Je veux dire, vivre en constante méfiance des autres et de leurs intentions, c'est la meilleure façon pour finir tout seul et vivre malheureux, entouré ou pas. C'est ne pas être capable d'entrer en relation en toute confiance, mais également l'idée d'entrer en relation avec soi en toute confiance peut être bafouée dans le doute, parce qu'il y a une différence entre la capacité de se remettre en question et douter de soi. C'est pas la même chose. C'est là qu'on peut voir que le doute peut être utilisé avec des formes subtilement différentes, mais qui font toute la différence, parce que se remettre en question nous permet d'évaluer, se positionner, oui, et rester ouvert, alors que douter de soi, ça nous bloque. Remettre en doute constamment, ça mène à l'inertie. Et c'est très contradictoire parce que il faut le voir pour le croire. Tant que je ne le verrai pas, je pourrais en douter. On croit au bienfait du doute, on l'accepte, on le préconise, mais en même temps, on est à la recherche constante de certitude. On est même très intolérant à l'incertitude, je l'ai nommé, et le doute, c'est l'ennemi de la clarté d'esprit, chose à laquelle on a accès en tout temps, en nous. Mais à force de s'entraîner à douter de tout et surtout de nous-mêmes constamment, on finit par l'oublier puis penser que c'est un luxe, une chance, un privilège de vivre dans la clarté. Tu sais, ce moment d'inspiration-là, de lucidité-là, il n'est pas possible quand on est en doute, dans le doute, et pourtant on utilise le doute en pensant qu'on va l'atteindre. Mais le doute peut nous mener à une complète inertie. Et douter des informations, et ça c'est ma plus grande utilisation du doute, personnellement, celle à laquelle je tiens encore fermement, je pense sincèrement que d'apposer une réflexion, un jugement, de remettre en question les informations qui sont véhiculées, c'est une capacité à développer de manière évidente. Je pense qu'on doit se questionner, simplement s'arrêter puis se demander est-ce que ce que je lis est vrai? Est-ce que ce que je ressens, c'est la vérité en lisant les propos, en les entendant à la télévision, disons. Mais une situation qui est arrivée récemment m'a amenée à réfléchir plus loin. J'avais partagé sur les réseaux sociaux une information concernant la physique quantique. C'est un domaine qui me fascine, mais dans lequel je ne suis pas vraiment très connaisseuse. Il y a une personne qui a alors nommé un autre article qui contredisait celui que j'avais partagé en démontrant que ce qui était énoncé dans le mien était faux. Et j'ai eu la réflexion suivante. Pourquoi on croit plus facilement l'article qui dément le premier, celui qui dénonce, qui clame la fausseté de l'information plus facilement que l'information elle-même? C'est comme si par esprit de rébellion, de désir de ne pas être dupe, on finissait par prendre pour du cash les articles, les propos qui démentent et qui dénoncent et qui doutent des autres. Donc pourquoi on n'applique pas le même scepticisme sur cet article qui dénonce et qui doute de l'information? Pourquoi est-ce que le doute ne nous habite pas autant dans ce cas-là? Et pas moins j'avais vraiment ça en tête. Je voyais que le doute n'était pas présent sur le doute. C'était un peu ça, finalement. Et pas moins d'un mois plus tard, il y a un autre événement sur les réseaux sociaux qui est arrivé et qui est venu nourrir ma réflexion et qui m'a démontré ce portrait, cette tendance-là, clairement. Très récemment, on le sait tous, la chanteuse Morane est décédée. C'était il y a quelques semaines. Et bien sûr, la nouvelle s'est répandue extrêmement rapidement et partout c'était affiché et partout où l'article était affiché, l'article qui annonçait son décès, je voyais des commentaires comme quoi ça devait être une fausse nouvelle. Donc beaucoup de questionnements surgissaient de partout et c'est alors que quelques heures plus tard, il y avait autant de commentaires avec un article paraissant tout officiel disant que la mort de Morane était fausse. C'était en aussi grand nombre, ça abondait. Et dès que ces articles qui doutaient de la véracité de la mort de cette chanteuse qu'on adorait tous, et plus encore qui la nommait comme clairement fausse, on avait tendance à croire directement cette annonce de fausse nouvelle. On croyait plus facilement, naturellement, spontanément, un article qui nommait que la nouvelle première était fausse. Et pourtant, c'était vrai. Morane était bel et bien décédée, tu sais. C'était la nouvelle même qui était vraie et c'était alors les articles dénonçant la fausseté qui mettaient en doute qu'il était faux et j'ai vu le portrait de ce que le doute peut nous mener à faire. Nous éloigner de la vérité plutôt que de nous en approcher, oui, Le doute est comme son propre piège ici parce qu'on croit tellement qu'il est l'outil premier pour se rapprocher de la vérité qu'on oublie parfois qu'il n'est pas le seul du tout et qu'il peut nous en éloigner plutôt que de nous en rapprocher. On oublie souvent de douter du doute. Malheureusement, on a facilement confiance en lui. Parce qu'étrangement, on croit que le doute nous mène à la vérité. Si on doute, comme je l'ai dit en début d'émission, on fait preuve de bon sens, on prend du recul, on est alors à même de voir la vérité et de ne pas être dupé par des fausses informations. Mais effectivement, on ne doute pas du doute aussi facilement. Que comme je viens de nommer l'histoire de l'article sur la physique quantique et que nécessairement, comme c'est une information qui est peu connue et que l'inconnu fait peur, et comme on n'aime pas l'incertitude, on préfère en douter que de croire qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut être certain de tout, mais que ça ne veut pas dire que c'est pas vrai ce qu'on sait pas, tu sais. Par contre, effectivement, on doute moins de nos doutes que des informations sur lesquelles on doute et on croit ainsi se rapprocher de la vérité et on croit qu'on peut éviter de se faire flouer, mais on vient de voir à quel point c'est pas vrai. Du moins, pas toujours. On continue de parler du doute et plus particulièrement des doutes de notre invité cette semaine, Ima, dans quelques instants. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis la chanson « Bailant » en 2002. Depuis, la chanteuse qu'on a connue est devenue femme d'affaires, maintenant à la tête de sa maison de production « Seven Angels », auteur du livre « Merci la vie » et également nouvellement maman. Sa relation avec le doute, c'est pas un secret et sa gentillesse non plus, donc on combine tout ça pour parler du doute en souriant et pas avec n'importe quel sourire, celui d'Ima. Bonjour Ima!
Allô!
Comment vas-tu?
Et le timing est tellement magnifique pour parler de ça, là.
C'est vrai?
Parce que, comme tu disais, là, nouvellement maman depuis 6 semaines demain.
Oh.
Et c'est comme rempli de doutes.
Ben justement, parce qu'on va revenir sur la place du doute dans ta vie, mais j'avais ce questionnement-là, à savoir depuis que tu es maman, Ima. Crois-tu avoir vraiment connu le doute avant ça ou le reste, ça a l'air de des petites pinottes à côté?
Oh my God! Ben, c'est comme le lâcher prise, tu sais, dans le livre, j'en parle énormément, puis c'est vraiment depuis la grossesse, depuis que j'ai le bébé, que je réalise c'est quoi vraiment le lâcher prise. Parce que, en même temps, tout est parfait, là, tu sais, on est des petits humains, puis on fait de notre mieux, puis la vie, ben, c'est une grande expérience, un grand livre. Mm-hmm. D'aventure, puis c'est essai-erreur, puis je pense pas qu'il y a d'échec, ou mais honnêtement, le doute, je connaissais un peu, mais là, ça teste à chaque seconde, le doute, est-ce que c'est la bonne chose à faire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être assez bonne, il y a tellement de questionnements, donc le doute a encore plus sa place, mais en même temps, ce qui est magnifique, c'est pourquoi, entre autres, on fait des enfants, je pense, c'est il y a comme une confiance qui est égale au doute, puis un amour inconditionnel qui est tellement fort, qui prend toute la place, que c'est ça, je pense, qui fait en sorte qu'on est capable de traverser ces grandes étapes-là.
Donc, t'es capable, tu dis que tu vis dans ce paradoxe-là de doute et confiance. C'est ce que ton enfant t'apporte actuellement?
Présentement, oui, c'est vraiment ça. C'est pas facile parce que je pense pas qu'on apprend ou qu'on grandit dans la facilité. Au contraire, mm-hmm. Puis je pense que quand on devient parent, ben c'est vraiment l'aventure de la fierté puis de l'insécurité à 100 000 à l'heure. Fait que c'est beaucoup ça qui est présent avec pas beaucoup de dodo parce que début, ben c'est plus rock and roll. Fait que ça vient jouer sur tellement de terrain, mais en même temps. Je pense que tout ça est parfait, tu sais, ça fait sortir plein d'insécurités, plein de morceaux qui ont toujours besoin de guérir. Fait que c'est, je suis vraiment à la bonne place. Je découvre une patience que je ne connaissais pas.
Mais ça, il y a beaucoup de mamans. Ma sœur aussi est nouvellement, ben plus si nouvellement, mais quand même, elle a deux enfants maintenant. Puis c'est ce qu'elle me dit. Elle dit, Emmanuel, elle dit, ça vient puiser des affaires que tu sais pas qu'ils sont là, tu sais.
Ouais.
Mais toi, tu dis quand même que le doute et le manque de confiance remontent à la moindre occasion. Du moins, c'est ce que tu as littéralement écrit. Donc, ta relation avec le doute, c'est une relation de longue date. C'est une relation un peu intime,
ben oui.
Quand même.
Ben oui, profondément. Puis, en plus, j'ai su pendant que j'étais enceinte qu'il y a eu des gros traumatismes que j'avais vécu étant bébé. Donc, ça m'a permis de comprendre vraiment récemment là, d'où venait ce sentiment-là de, tu sais, le manque de confiance et le doute qui était si présent mm-hmm. dans ma vie. Mais en même temps, on a beau faire toute la guérison du monde, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi accepter où est-ce qu'on est puis qui on est avec tout le bagage que ça implique. Puis je pense que ça, c'est le plus gros morceau, le morceau le plus difficile parce que c'est vraiment d'apprendre à s'aimer tout au complet.
Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que quand on te lit, on se rend compte que ta vie est extrêmement spirituelle, un travail sur toi qui est conscient et constant, je dirais même. Mais malgré tout, après une quinzaine d'années à le faire avec tout ton amour, dans vraiment un désir de grandir à l'intérieur de toi, t'as des doutes qui reviennent constamment. Est-ce qu'on s'en débarrasse de ça un jour où c'est inévitable parce que tu travailles, t'as travaillé beaucoup, là?
Je le sais pas, honnêtement, sauf que ce qui est magnifique, c'est qu'on apprend à nommer les choses. Moi, ça, c'est quelque chose qui est devenu un peu une force. Je le voyais comme une faiblesse, mais c'est devenu une force parce que c'est d'être capable de nommer comment je me sens, de connaître ses limites. C'est vraiment apprendre à se connaître. Puis il y en a pas personne de parfait. Puis en plus, les relations intimes, les relations personnelles, mm-hmm. c'est là où est-ce que ça fait le plus évoluer parce qu'on est confronté constamment avec un miroir. T'sais, on dit toujours qu'on ne rencontre que soi-même. Donc, mm-hmm. dès qu'il y a quelque chose, il y a un morceau où est-ce qu'on résiste ou est-ce que c'est difficile, ben c'est parce qu'il y a un morceau qui tente à guérir. C'est ce que je crois puis c'est ce que j'ai expérimenté aussi. Donc, c'est un travail constant. Puis dès qu'on embarque dans la conscience, ben ça s'arrête plus, tu sais.
Ben c'est ça, c'est comme au contraire ouais. de ce qu'on pense, on creuse plus loin. C'est pas qu'il fait plus noir, mais quand même, on déterre beaucoup de choses et ça fait plus de matériel à travailler avec, tu sais.
Exactement, mais en même temps, on entre plus dans la vérité, dans les vraies affaires, puis on apprend à s'accepter un peu plus à chaque jour, tu sais, dans autant qu'il y a des moments de joie, autant qu'il y a des moments de colère, autant qu'il y a des moments de tristesse, autant qu'il y a des moments de bonheur, d'euphorie. Tu sais, c'est d'apprendre à aller vivre ces moments-là. Puis souvent, tu sais, on pense que penser positif rime avec, tu sais, faut être heureux tout le temps, là. Je pense que c'est, on se met beaucoup de pression dans notre société, là, autant dans la consommation que dans la beauté, que l'éphémère, que le superficiel. Puis pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui vient
embrasser tout le spectre des émotions.
Oui.
On s'arrête quelques instants et tu as nommé un mot très, très important, vérité. Et je veux regarder ta relation entre le doute et la vérité dans quelques instants. On revient. Vous écoutez toujours Emmanuel avec un M et deux L sur le canal M et on parle toujours de doute avec notre invitée cette semaine, Ima.
Quand je suis incertaine de la robe à porter avec ces souliers-là pour aller déjeuner avec toi. Et que tu t'impatientes sur le bord de la porte avec dans tes mains le café crème que je t'ai commandé. Je m'étourdis seule devant mon miroir, le taxi nous attend. Je prends ma robe noire, j'échappe le café, ma robe est tachée, tout est à recommencer. J'étais pourtant certaine que j'étais enfin prête à t'accueillir chez moi et vivre ensemble sous le même toit. Te voilà souriant sur le bord de la porte avec dans tes bras beaucoup plus de boîtes que j'avais pensé. J'ai placé des places, la table et le divan, je remets en question ton aménagement, le camion dans la rue, les voitures klaxonnent, tout est à recommencer. C'est un beau week-end que nous avons passé. Tu retournes travailler, déjà je me mets à m'ennuyer. À la pause et café, je t'appelle pour parler de comment je me sens. Évidemment, ce n'est pas le bon moment. C'est à cause de la lune, je me mets à fumer, à douter de ma vie, ma beauté, mon métier. Je pleure quand tu dis qu'il vaut mieux raccrocher. Tout est à recommencer.
On est toujours avec Ima et on parle du doute ouvertement, avec authenticité. Et tu as nommé quelque chose tout à l'heure, tu as dit qu'en travaillant sur soi dans la conscience, on atteint également la vérité. Mais quand je réfléchissais sur le doute et la place que le doute a dans nos vies, je me suis posé la question. Et je te la pose d'ailleurs actuellement, maintenant. Est-ce que tu as l'impression qu'on utilise le doute pour atteindre la vérité ou est-ce que le doute apporte une confusion qui nous en éloigne?
Je pense que le doute, c'est un peu égal aux peurs. Donc,
oui.
Une création de notre mental.
J'aborde dans ton sens.
Donc, c'est une belle grande illusion. Ça devient une réalité parce que plus on met notre attention dessus, plus on va créer, manifester cette réalité-là. Mais sinon, c'est toute une illusion, une belle grande illusion. C'est juste qu'on est des petits humains, puis on fait de notre mieux, puis on a tous un bagage, on vit des expériences, on est confronté constamment avec notre ego, tu sais, à tellement de choses que c'est pas toujours facile de rester dans la vérité, dans l'authenticité. Tu sais, c'est un travail de chaque instant. Je fais du yoga depuis des années, puis à chaque fois que j'ai rencontré des super profs de yoga, c'était toujours le même discours. Tu sais, on fait du yoga, on se dit, OK, d'habitude, je vais avoir l'éveil, c'est là que ça va bien aller, c'est là que je vais comprendre tout. Mais finalement, non,
c'est magique.
Juste nous aider à être plus nous-mêmes et à garder un peu une balance ou un calme à travers les grosses tempêtes. Parce que les tempêtes vont pas arrêter de survenir. Au contraire, on dirait que plus on est dans un chemin spirituel, plus on est dans la vérité, justement, la conscience, guérir, tout ça, plus la vie nous teste.
Pas un chemin lisse, exactement. On peut revivre. Non, c'est ça.
Mais c'est magnifique, ça nous rend encore plus fort, puis ça nous permet de justement d'inspirer d'autres gens, puis de comprendre, puis de vivre les vraies affaires.
Mais tu as nommé que c'était une illusion, ce doute-là, parce que, puis je l'ai nommé plutôt en émission, hein, le doute, la vérité, on l'incarne, on est la vérité, on a cette vérité-là à l'intérieur de nous, si on prenait le temps de s'écouter un peu, on n'aurait pas besoin de douter pour atteindre la vérité, mais j'ai l'impression que le doute nous a été enseigné comme étant un bel outil pour l'atteindre. En quelqu'un qui est sceptique, là, c'est quelqu'un qui a du gros bon sens, alors que quelqu'un qui est naïf, ben il est un peu poisson, tu sais.
Oui, mais en même temps, quelqu'un qui est naïf, je veux dire, c'est tellement beau aussi. Parce que t'es tellement libre. Tu sais, il y a comme, tandis que quand tu sais trop de choses, ben, il y a plus de. C'est un point de non-retour, tu sais. Plus tu connais des choses, plus ça crée justement des peurs parce que tu es dans la conscience, tu sais. Fait que c'est toujours de se ramener dans le moment présent, dans la respiration, T'sais, la vie est belle, là, si tu regardes la nature, t'sais, tout est parfait. Sauf que des fois, on a chacun nos défis, puis une journée, ça peut être moins fun, puis le lendemain, ça va passer. T'sais, c'est le travail de chaque instant, je pense.
Oui, puis tu l'as nommé, tout est parfait, puis je pense qu'on est joie à la base, puis on tend toujours à faire tout pour être bien et être dans un bien-être, mais des fois, on s'ennuie un petit peu, fait qu'on se recrée un petit drame dont le doute peut faire partie. Et tu manques pas d'occasion d'avoir douté, je veux dire, t'es une artiste, t'es une femme, t'es une humaine, t'es mère. Comment il se manifeste le doute quand il arrive dans ta vie? Dans le concret, là.
Mais le doute,
tu gères ça comment? Tu fais des listes, tu ronges les ongles, tu tournes en rond.
Tu dors pas. Ouais. Je me pose un million de questions. Mais ce qui est le fun maintenant, c'est que j'arrive à nommer les choses. Ça veut pas dire que c'est le fun, ça veut pas dire que c'est facile mais j'arrive à les nommer. Donc, j'arrive à m'asseoir dans cet inconfort-là, puis à le vivre intensément, même si c'est pas confortable, même si c'est complètement déstabilisant, même si ça me donne le vertige. J'ai réalisé dans ma vie que j'étais quelqu'un d'extrêmement sensible, que la confiance, c'est un de mes grands challenges. Donc, j'ai pas le choix d'accepter que ça se peut que ce soit là tout le temps.
Puis quand tu dis nommer les choses, là, tu prends un recul, t'arrêtes et tu nommes. Puis tantôt, t'as nommé que le doute, c'était de la peur. T'es capable de pointer de quoi tu as peur à ce moment-là? Est-ce que ça pourrait être une façon de t'en sortir, ça?
Des fois, ça passe par... Excuse-moi.
Vas-y.
Des fois, ça passe par la colère. Ça va passer par la rage. Et longtemps, j'ai essayé d'étouffer ces émotions-là parce que je pensais que c'était pas beau, que c'était pas correct, que... Il y a comme un bruit bizarre.
J'entends le petit bébé.
Ah oui. Oui. Oh. Parce que dans mon quartier, ils refont les tuyaux quelconques, puis là, il y a comme un gros bruit d'eau chez nous. En tout cas, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est super weird.
On n'entend pas, mais c'est ça, toi, tu es à la maison parce que tu t'occupes de Mini-Moi présentement, qui avait faim.
Oui, oui, exactement. Mais c'est ça, c'est d'apprendre à s'asseoir dans la rage, dans la colère, puis de la nommer aussi, tu sais, parce que... Dès qu'on met la lumière, dans le fond, sur quelque chose, ça devient moins gros.
Ça te fâche quand tu doutes? Moins...
Ben, des fois, oui. Mm-hmm. Des fois, je vais douter de moi, je vais douter de quelqu'un, je vais douter d'une situation. Puis, c'est comme si mon premier réflexe, c'est d'aller dans la résistance, donc de pas vouloir ça. Puis, dès que je vais là, ça crée comme une confusion, puis ça devient plus gros, puis là, c'est tranquillement à travers la respiration, puis juste à prendre un petit peu de recul, puis faire « OK, c'est vrai. C'est vrai. Ça n'a pas rapport. OK, on va accueillir ça. On va... » Fait que c'est un travail que j'ai appris à faire avec des thérapies, des séances de coaching, décider ça. Puis, mais c'est ça. Je pense que c'est un travail de chaque instant. Tu sais, ça dépend... Ça dépend
de l'objet du doute également, puis de,
oui, exactement.
De ton état de base. Là, si tu étais déjà un peu plus sensible ou fragile, par exemple, que tu n'as pas dormi
exactement.
Beaucoup parce que tu as un nouveau-né, ça se peut qu'il soit moins gérable qu'autrement. Selon toi, dans ce grand apprentissage qu'est la vie, la leçon que le doute t'apporte, qu'est-ce qu'il t'apprend, le doute, quand il arrive?
Ben, il m'apprend... Si j'ai pas dormi beaucoup, ben c'est comme OK. Là, ça se révèle énormément chez moi dans la fatigue, la solitude. Et quand je suis en train d'aller à quelque part, où est-ce que je suis en train de m'épanouir ou de grandir, tu sais, je suis dans une grande étape de ma vie où est-ce qu'il y a un grand apprentissage qui est là, bam, le doute qui arrive à grand coup de je t'aime. Quand je suis capable de me détacher puis de regarder ça de plus objectivement, je réalise, OK, c'est parce qu'il y a quelque chose de beau puis de grand qui est en train de se passer. Fait qu'on va l'accueillir. On va, tu sais, c'est pas un ennemi. Ça fait partie de la game. Donc, ça m'apprend à tranquillement être plus douce avec moi-même parce que je suis quand même quelqu'un de très exigeante. Mm-hmm. Donc ça m'apprend, OK. On continue de lâcher prise, on continue de respirer, on est, tu sais, t'es dans la bonne voie, ça va bien aller. C'est tout de se rappeler ça, puis d'en parler aussi, ça fait énormément de bien, tu sais, d'être capable, justement, comme je disais tantôt, de nommer les choses. Quand on est capable d'en parler à quelqu'un en qui on a confiance, juste d'exprimer ça, si on n'est pas capable de le faire tout seul, ça fait tellement du bien, juste de se sentir entendu, pas nécessairement de que ça s'évapore, mais juste de nommer les choses, ça a un pouvoir assez phénoménal.
Ben écoute, tu viens de nous donner beaucoup de pistes à savoir comment travailler le doute dans nos vies. Et je rappelle que le livre « Merci la vie » est toujours en librairie. Ça a été tellement rafraîchissant et un bonheur pour moi de le lire. Et comme je t'ai dit avant l'entrevue, je l'ai lu en 3 heures. Je l'ai bouffé littéralement. Donc, merci. Et l'album « Femme » également est toujours disponible en magasin et sur toutes les plateformes numériques. Merci d'avoir pris du temps dans ta nouvelle vie de maman pour nous aujourd'hui, Ima.
Merci à toi, c'était un beau plaisir.
Bye bye, bonne journée. Bon repos.
Merci.
Bye bye.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour nous. avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie, merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Être comme Thomas, c'est devoir le voir pour le croire. C'est l'archétype, c'est la référence de l'homme qui doute et il doit nécessairement sa réputation et sa place dans l'inconscient collectif à ses questionnements et ses doutes. Et on connaît tous un Thomas dans notre vie, on en est peut-être un, nous-mêmes, et c'est bien correct. Tant et aussi longtemps qu'on se connaît bien. Mais je crois que, comme dans toute chose, l'équilibre est important et la recherche d'équilibre reste une bonne façon pour ne pas tomber dans le frein que le doute impose parfois, ni dans la naïveté qui nous enlève tout jugement possible. Et qui dit équilibre dit balance. Donc oui, trouver la balance entre douter suffisamment et avoir la clarté nécessaire pour toucher la certitude. Et la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est cette phrase de Socrate. Hein? « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas », qui sous-tend encore et toujours une certitude, celle qu'on ne sait pas. Okay? L'autre chose à laquelle je pense, et j'ai parlé étrangement des quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz, je ne sais toujours pas comment le prononcer d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller écouter l'émission sur le thème de la responsabilité, c'est toujours disponible d'ailleurs sur le canal m.vusezvoix.com. Mais j'ai parlé des quatre accords Toltec, mais il y a un cinquième accord duquel on ne parle que très peu et c'est celui-ci. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ne vous croyez pas vous-même ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité? Écoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. Oui, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ça serait donc la certitude de ne pas savoir et l'ouverture à savoir qui ouvre la porte à la vérité et non le doute sur ce qu'on sait ou ce qu'on devrait savoir ou ce qu'on pense savoir. Et je suis moi-même une grande sceptique, je l'ai déjà nommée, et je prends rien pour acquis, surtout qu'on sait que ce que l'on croit être une vérité, comme dans le monde de la science par exemple, ça va être dépassé et désuet demain. Donc, j'écoute, j'évalue, j'analyse, je suranalyse, dirais-je. Mais justement, je crois rester ouverte et j'écoute ce qui résonne en moi. Dans le fond, on dirait que le doute est bon quand il nous permet d'avancer. Dans le fond, la meilleure arme contre le doute, est-ce que ça serait de jamais avoir de certitude, de ne jamais se vautrer dans une certitude et d'arrêter de la chercher? Peut-être. Mais il reste clair pour moi, par contre, qu'à trop douter, le scepticisme devient un peu vicieux parce que quelqu'un qui doute constamment de tout s'éloigne de la clarté d'esprit, donc dont il peut bénéficier à tout moment. En fait, à tout moment, on est savoir. On est EST. On est savoir à tout moment, on a la possibilité à l'intérieur de nous de connaître la vérité. Et quand on doute, c'est qu'on s'éloigne de ce savoir-là. Oui, on s'éloigne de notre intuition. Rester connecté à soi, pour éviter les doutes à outrance ou la naïveté qui accueille le faux les yeux fermés. Parce que quand je dis « la naïveté nous enlève tout jugement », tu sais, ça non plus, c'est pas rester connecté que d'être naïf à outrance. Quand le doute s'installe, le senti que quelque chose cloche ou ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui résonne faux et quelque chose qui doit être absolument adressé, et oui, on le sait quand quelque chose ne marche pas. Et quelqu'un de naïf qui croit tout ce qu'on lui dit et qui se fait mentir à tous les jours, il n'est pas plus connecté à son senti que celui qui doute de tout, parce qu'on va se le dire, c'est un peu utopique de penser qu'on peut mener une vie complète sans rencontrer le mensonge quelque part à un moment donné. Là. L'intuition, le senti, le petit qu'on a à l'intérieur puis qui nous dit d'aller vérifier une information avant de la prendre pour acquis, on peut appeler ça un doute, mais on peut aussi appeler ça un gut feeling, t'sais, une intuition. Moi, ça m'est arrivé souvent. Je lisais un livre et en lisant les pages, il y a quelque chose qui résonnait comme faux à l'intérieur de moi. Quelque chose faisait que j'avais l'impression que ce que je lisais, ça ne m'apportait pas ce que je cherchais, une forme de vérité, quelque chose du moins qui pouvait être bénéfique pour moi à ce moment-là. Je ne le trouvais pas. J'avais pas l'impression que ça m'amenait à bonne place. Je pratiquais énormément mon ressenti à ce moment-là. Parce qu'avec les modes de vie qu'on a, du moins le mien, je l'avais malheureusement mis de côté trop souvent et trop longtemps. Et pendant cette période-là, où je travaillais beaucoup et pratiquais beaucoup mon ressenti, j'en ai refermé des livres à page 29. Plusieurs. Sincèrement, plusieurs. Parce que je le sentais que c'était pas ça. Est-ce que j'avais raison ou tort? Ben, je me suis jamais posé la question. J'ai jamais douter que j'avais passé à côté de la révélation de ma vie qui aurait pu être à page 112. T'sais. C'est ça, trier l'information en fonction de ce qui se passe en dedans, sans liste de pour et de contre, sans engager un détective pour enquêter sa vérité, sans se faire un schéma, un diagramme des potentiels éléments qui peuvent être faux, là, juste d'incarner sa vérité. La vérité, on la porte de toute façon. Il faut juste réapprendre à écouter. Et si on s'écoutait vraiment, le doute ne serait pas le remède contre la mauvaise information, la mauvaise foi ou un mauvais choix. Si on s'écoutait vraiment, on aurait accès à la clarté et à la vérité parce que le doute, c'est la peur, c'est la confusion. Et je ne crois pas que ce soit un outil à prioriser dans nos vies pour avancer, bien qu'on veuille l'utiliser à bon escient et que nos motifs soient sincèrement pour le bien et pour le mieux. Parce que, je l'ai dit souvent, on utilise les choses, on fait des choses parce qu'on croit fondamentalement que c'est bon pour nous. Si on ne croyait pas au bienfait du doute, on ne douterait pas. Mais on y voit là une forme de protection et au-delà de la forme de protection qui peut paraître saine et une utilisation efficace du doute, on sait aussi qu'il peut dégénérer et nous apporter dans un état, oui, d'inertie, de confusion, qui, eux, ne nous rapprochent pas de notre but, mais qui nous en éloignent. Reconnaître quand on dépasse la limite d'une saine utilisation du doute, est-ce que j'avance ou je stagne, ou pire encore, je recule? Et j'ai abordé déjà la différence entre se remettre en doute et douter de soi. Moi, je suis encore assez bipolaire sur l'utilisation du doute, je l'ai nommé également probablement parce que je suis tombée dans douter de moi plus souvent que nécessaire et que j'ai connu les barrières que le doute peut amener. Donc, j'imagine que pour savoir si on dépasse la limite saine du doute, la solution à appliquer serait alors de douter du doute. Douter du doute. Et finalement, je vous transmets un enseignement d'un grand enseignant que j'adore et qui disait que la seule façon de cesser de douter, c'est d'y mettre un terme avant qu'il n'arrive. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes?
about you.
Déjà tout pour l'émission à cette semaine sur le doute. Je remercie Anne-Laure Janson à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté également en régie, sans qui, sans aucun doute, cette émission ne pourrait pas avoir lieu. Oh! Et je remercie également Ima pour sa présence à l'émission, pour avoir partagé avec nous la place du doute dans sa vie. C'est une question d'attitude, vous vous en doutez, hein? On a le choix. Passer sa vie dans la méfiance ou dans la confiance. Choisir de douter ou de croire. À nous de voir ce qui nous fait nous sentir le mieux. Bonne semaine.